Vivre FM, podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour et bienvenue dans Recherche et partage. On va parler d'amour aujourd'hui, non pas que le reste du temps on oublie de parler d'amour, mais le projet de recherche auquel nous allons nous intéresser tout de suite. Là, maintenant, prochainement, s'appelle Mes amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle. Un beau programme que ce projet de recherche, lauréat 2014 des projets soutenus par la FIRA, Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Un projet que nos deux invités vont vous présenter et vous faire aimer parce que les amours des personnes déficientes intellectuellement, ce sont nos amours, vos amours, l'amour. C'est toujours l'amour avec ou sans déficience. Allez, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Recherche et amour, c'est tout de suite sur Vivre FM. Mes amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle, c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, Cécile Dupas, qui est présidente de Trisomie 21 France, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, et Yves Jeanne, maître de conférence à l'Institut des sciences pratiques d'éducation et de formation de l'Université Lumière Lyon 2. Bonjour Yves.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler de ce projet donc soutenu par la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Un projet lauréat 2014, une recherche qui démarre tout juste. Et avant d'aborder un peu plus en détail cette recherche justement, j'aimerais que Cécile peut-être commence à nous raconter comment tout cela est parti. Ça fait des années que vous travaillez avec les personnes qui ont une trisomie 21. Comment, à un moment, vous êtes dit, ou au contraire, pendant très longtemps, peut-être vous êtes-vous dit, il faudrait s'intéresser à cela, à la sexualité de ces personnes-là?
Oui, ça fait très longtemps en réalité, hein, depuis les origines, c'est-à-dire presque une quarantaine d'années, même une quarantaine d'années, les associations Trisomie 21 ont fait le choix d'accompagner les personnes avec une trisomie dans la vie en milieu ordinaire. Donc au départ, on a accompagné plutôt des enfants à l'école, puis les enfants grandissant, forcément, les problématiques ont aussi évolué, donc sont arrivées des problématiques liées à l'emploi, liées au logement, et bien sûr liées aux relations amoureuses et aux relations sexuelles. Voilà, donc à partir de là, ça nous a posé un certain nombre de questions, mais je pense qu'on développera peut-être un petit peu après, un certain nombre de problématiques, et on a l'habitude à Trisomie 21 de s'entourer de partenaires qui peuvent nous accompagner dans notre travail. Donc voilà, pour nous, ce projet de recherche, c'est un partenariat encore avec l'université et qui va, on l'espère, nous donner des pistes et puis améliorer la qualité de vie des personnes, tout simplement, parce que le but, c'est ça.
Alors, les partenaires, justement, de la recherche sont importants et c'est d'ailleurs un point sur lequel la FIRA insiste, en tout cas quand elle soutient des projets de recherche. Il y a l'acteur associatif, donc Trisomie 21 France, l'université Lumière Lyon 2, représentée ici par Yves, et puis un centre ressources handicap et sexualité, alors je vais les citer, hein, les partenaires comme ça, le CERES, qui promeut la santé sexuelle et la réduction des risques et des dommages, et puis des services de réadaptation, le centre de référence des anomalies du développement du CHU de Saint-Étienne et le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de la Mauricie et du centre du Québec. Voilà, c'est un petit peu long, on peut retrouver la liste des partenaires très exacts sur le site de la FIRA par ailleurs. L'université Lumière Lyon 2, représentée par vous ici, Yves, comment vous êtes entré en contact, comment ça s'est fait? Vous avez été contacté par Trisomie 21 France pour aborder cette problématique, ces questions de sexualité chez les personnes avec Trisomie 21?
Ouais, c'est une question qui nous préoccupe du point de vue de la recherche depuis pas mal de temps. Le premier laboratoire de recherche là-dessus à Lyon, à 20 ans maintenant, il a été initié par Charles Gardou, et l'idée c'était de sortir des approches strictement médicales ou psychologiques, d'une part, et c'était aussi de considérer que les personnes porteuses de déficience sont porteuses d'une expertise concernant leur déficience que personne ne peut connaître à leur place. Par conséquent, le travail de recherche ne peut pas s'entendre à côté d'elles, sans elles. Ce qui implique des partenariats, ce qui implique des échanges, et pas seulement des entretiens où aller considérer ces personnes comme ça, comme des sources d'information, mais considérer que ces personnes ont vocation à travailler avec nous pour faire émerger ce que sont les questions qu'elles se posent et la façon dont on peut, avec elles, avancer sur ces questions. Donc, c'est une philosophie de la recherche, faire la recherche avec les personnes. Et évidemment, le joint avec des associations qui structurent un certain nombre de choses, pour nous, c'est essentiel. Et puis, au fond, il y a trois questions. La première question, c'est que depuis Mathusalem, les personnes en situation de handicap ont toujours été parquées. Hein, des ghettos qui se sont plus ou moins améliorés, mais qui restent en tout cas en dehors du monde. Et l'expérience de trisomie 21 est encore une expérience rare en France, qui consiste à penser qu'il faut accompagner la vie de ces personnes dans le milieu ordinaire tout au long de la vie et dans tous les aspects de la vie. C'est très novateur en France. La dimension institutionnelle est encore écrasante. Et cette dimension institutionnelle, elle a fait rupture avec toutes les dimensions de la sexualité. Une étude très récente que conduit une collègue, Jennifer Fournier, qui est associée à cette recherche, a montré que sur la région Rhône-Alpes, sur tous les établissements qui reçoivent des personnes avec des déficiences motrices, par exemple, il existe une chambre double avec lit médicalisé pour 600 personnes interviewées. Vous voyez où on en est. Deux, on s'est rendu compte, et les recherches internationales en attestent, que les connaissances des personnes concernant la physiologie, concernant la sexualité, concernant la vie amoureuse, sont incroyablement déficitaires. Elles ne connaissent pas leur corps, elles ne connaissent pas les mots du corps. Elles ont énormément de difficultés à entrer en dialogue autour de cette question. Et pourtant, elles vivent très profondément leur corps comme vous, comme moi. Seulement, elles n'ont pas les mots pour le dire, le penser, l'exprimer. Deux, on sait par les études qu'elles sont bien davantage sujettes aux prédations, par exemple, que le reste de la population. Cet ensemble de raisons nous a poussé à nous intéresser de près à cette question. Et j'ai publié récemment un ouvrage là-dessus. Mais de surcroît, il y a une autre dimension qui pour nous est tout à fait essentielle. C'est que ce dont il s'agit au bout du compte, c'est de contribuer par la recherche à une réelle amélioration des qualités de vie. On fait pas de la recherche pour la recherche, on travaille pas sur des objets, on travaille avec des personnes et on leur doit par respect, par estime et par simple humanité de pouvoir avec elles construire les éléments qui leur permettront, c'est le but de cette recherche, de mieux appréhender toutes les dimensions qui les concernent vers un épanouissement amoureux, un épanouissement sexuel qui soit de meilleure qualité.
Alors, on entend bien le problème de l'institutionnalisation. Oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, d'avoir sorti ces personnes des instituts permet d'aborder peut-être plus facilement ces questions. Mais est-ce que ces problématiques ont été évoquées par les personnes avec trisomie 21? Est-ce qu'elles-mêmes sont venues vous dire, peut-être vous, Cécile, au sein de trisomie 21, qu'elles avaient ces questions, qu'elles avaient des besoins, qu'elles avaient des envies, qu'elles voulaient en parler? Est-ce que ça a été exprimé à la base?
Ah oui, mais bien évidemment, c'est exprimé. Ça n'est pas exprimé forcément en mots. Les gens ne sont pas forcément, comme vous dites, venus nous voir ou me voir. Mais quand on voit les personnes vivre en milieu ordinaire, on s'aperçoit bien que c'est un aspect de la vie qui présente des difficultés, qui leur pose des difficultés, qui en pose aux familles aussi, hein, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les familles ou l'entourage des personnes se disaient « oui, finalement, c'est bien être autonome, le travail, le logement, l'école, tout va bien », mais comme si à un moment, il y aurait une limite, il y avait une limite, et cette limite, c'est les relations sexuelles, les relations affectives, oui, mais les relations sexuelles, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Il est très difficile, encore pour beaucoup de personnes, de s'imaginer qu'une personne avec une trisomie ou une déficience intellectuelle a une sexualité autre que, j'allais dire, une sexualité enfantine. Si je peux m'exprimer comme ça.
Ça rejoint un petit peu les tabous qu'on a en milieu ordinaire pour un peu tout le monde, j'allais dire. Et du coup, comment sur quelle base on peut se fonder aujourd'hui pour démarrer cette recherche? Quelles questions on va aborder? Comment on va finalement aborder ce thème de la sexualité en partant d'un petit peu rien? Vous le disiez Yves à l'instant, il y a très peu de choses, d'outils qui ont été développés pour ne serait-ce qu'aborder ces questions.
Alors ça, c'est la première partie de la recherche, ce sera les 6 premiers mois. Et pendant ces 6 premiers mois, nous allons organiser, avec Trisomie 21, un certain nombre de ce qu'on appelle dans notre jargon des brainstorming, de façon à pouvoir avoir accès à ce que disent les personnes, à leurs connaissances, mais aussi à leurs aspirations. Parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, faire une étude sur la sexualité des personnes handicapées, c'est une horreur, c'est une absurdité, c'est une aberration. Il s'agit simplement de savoir et de comprendre comment elles la vivent, ce qu'elles en savent, et quelles sont leurs aspirations en la matière. Et c'est à partir de l'analyse de ces données-là, de ces résultats-là, que nous allons construire un programme de formation, non seulement à leur intention, mais avec elles. L'idée est double. Hein. Elle est, d'une part, de connaître leurs préoccupations, leurs aspirations, mais aussi de construire avec elles un modèle de formation auquel elles seront très fortement associées. Et nous faisons l'hypothèse, alors cette fois comme scientifiques, qu'elles sont parfaitement capables d'être en situation de former leur père.
Ça, vous le sentez déjà, vous, Cécile, avec le travail que vous faites auprès des personnes qui ont une trisomie 21, cette capacité qu'elles ont, de toute façon, à prendre leur vie en main, que ce soit sur ces questions amoureuses et sexuelles.
Ah oui, tout à fait, mais au-delà de la capacité, elles ont envie de prendre leur vie en main, dans tous les domaines, effectivement. Et puis, je voudrais rebondir sur ce que avait dit Yves tout à l'heure sur l'expertise. On a toujours considéré, et moi j'y crois fermement, que les personnes, effectivement, sont les premières expertes de leur vie. Après, la difficulté, c'est effectivement de faire émerger ses désirs, ses souhaits, ses choix de vie. Tout le travail est là, en fait. Hein. Pour ça, c'est pour ça qu'on va travailler avec elles, puisque ce sont elles qui vont contribuer à faire émerger leur choix de vie, leur projet de vie, et non pas nous qui allons calquer nos représentations sur leur vie.
Un mot sur ce panel, entre guillemets, de personnes trisomiques qui vont participer activement à la recherche, de tous âges, de tous sexes, alors en milieu ordinaire, ça on l'a dit, enfin en hors institution, combien de personnes et quel type, entre guillemets, de personnes, ou est-ce qu'on a vraiment tous les profils?
Je pense qu'on peut avoir tous les profils, enfin Yves va peut-être compléter, mais...
Ouais.
Alors, d'un point de vue pratique, pour la recherche, on va partir pour les entretiens de 8 groupes d'entretiens, de façon à avoir peut-être de 4 ou 5 personnes pour chaque groupe. Et à partir de là, dans un deuxième temps, et à partir de ces rencontres, d'ailleurs, on proposera à un couple, une personne porteuse de déficience et une personne valide l'accompagnant, de constituer des binômes auxquels sera, entre guillemets, proposé les modules de formation construits avec eux.
Mais on a des couples déjà de personnes avec trisomie 21, ou c'est vraiment des individuels qui vont se prononcer eux-mêmes sur ce qu'ils aimeraient, ou est-ce qu'on fait aussi participer peut-être des couples?
C'est pas décidé. L'idée, et la FIRA pour ça a été assez intéressante, vous savez, quand on fait des projets de recherche, les gens veulent tout de suite qu'on leur dise les résultats. Moi, les résultats, je les connais pas. Je les ai pas encore rencontrés, ces gens. Je ne sais pas avec qui on va travailler, mais c'est ce qui m'intéresse, justement. C'est de pouvoir mobiliser, motiver et chercher comment mobiliser des gens, trouver les mots, trouver les attitudes, trouver les outils pour que l'on puisse travailler ensemble.
De toute façon, s'il n'y avait pas de couple au démarrage de la recherche, il y en aura sûrement à la fin. Vous nous raconterez ça après. On revient avec vous dans un instant sur Vivre FM.
11h midi, recherche et partage avec la FIRA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage pour parler aujourd'hui de Mes Amours, un accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle. Yves-Jeanne et Cécile Dupas sont à nos côtés pour nous expliquer, voilà, pourquoi avoir choisi ce sujet de recherche. Cécile, avec vous, j'aimerais qu'on revienne sur le quotidien de ces personnes qui ont du mal aujourd'hui à vivre leur sexualité. Et pour les parents, les proches, les aidants, on le disait à l'instant, c'est compliqué aussi. On n'est pas armé finalement pour répondre à ces questions. Quelles sont les questions qui se posent, que vous vous êtes posées vous aussi en tant que proche?
Elles ont, je pense, des difficultés effectivement à vivre leur sexualité. Elles ont des difficultés à vivre des relations amoureuses de façon générale. J'allais dire, c'est relativement difficile pour elle. Alors pour quelle raison, la recherche va peut-être nous le montrer. mais relativement difficile d'exprimer des désirs, des envies, de que ce soit en termes simplement amoureux ou en termes sexuels, je pense. Après, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a aussi le positionnement de l'environnement, le positionnement des proches. Je pense par exemple aux parents. Étant donné les difficultés d'expression et les difficultés d'organisation des personnes, les parents pourraient être très facilement amenés à gérer la sexualité de leurs enfants, hein, ce qui n'est pas sain. Donc l'idée, c'est aussi qu'à travers cette recherche et les formations qu'on va proposer en binôme, etc., les personnes vont effectivement prendre en main leur propre sexualité, ce qui est quand même beaucoup plus sain.
Est-ce que le frein aujourd'hui ne vient pas finalement beaucoup de la société, des parents, des proches ? Est-ce que c'est pas nos propres peurs, nos propres tabous qui font que finalement on renvoie une image un petit peu cachée comme ça de la sexualité et qui fait que ces personnes porteuses de trisomie, eh bien, ont du mal à aborder le sujet ? Est-ce que finalement c'est pas nos freins qui les empêchent de vivre ça plus pleinement ?
Il y a probablement nos freins, mais je pense pas que ça soit seulement ça. Je pense, pour avoir des exemples proches de moi, je pense qu'il y a vraiment une difficulté à cerner ce que c'est qu'être en couple, par exemple, ce que c'est que avoir le consentement de l'autre. Je pense qu'il y a quand même là de réelles difficultés qui sont pas forcément liées au regard qu'on porte sur eux et au tabou dont vous parlez. On peut par exemple avoir deux personnes qui parlent de mariage, qui disent voilà, dans 2 ans on va se marier, puis qui en réalité ne passent pas de moment ensemble. Donc il est parfois difficile de faire la part des choses entre le désir réel d'une relation et une espèce de peut-être conformisme ou peut-être à nos représentations à nous. Donc c'est, je pense, beaucoup plus compliqué que tout ça. C'est le but de la recherche, je crois.
Vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, Yves, ça va être compliqué aussi quand on mène ce type de recherche, d'essayer de mettre un peu de côté notre conception de la sexualité et de l'amour pour essayer de creuser la leur et de découvrir la leur qui est peut-être différente, qui peut-être va enrichir notre propre compréhension de cela.
C'est sûr que le premier point, c'est de pouvoir se décentrer et de pouvoir trouver des méthodes pour que les gens expriment vraiment ce qu'ils savent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et que l'on ne mette pas en avant ce que nous pensons. On a beaucoup pris l'habitude de parler à leur place, de penser à leur place. Au nom de leur déficience, on pensait presque qu'ils ne pensaient pas, n'est-ce pas ? Et c'est pas parce qu'ils n'expriment pas ce qu'ils pensent qu'ils ne ressentent pas profondément des pensées. C'est le premier point. Premier point de la recherche, la question de la connaissance. Dans les interviews qu'on a pu conduire avec d'autres personnes autour de cette question, dans nos différentes recherches, Charles Gardou, Jennifer Fournier et moi-même, on arrive à des choses extraordinaires d'une jeune femme, pas vraiment déficiente intellectuelle d'ailleurs, mais qui se pose la question de savoir si tous les hommes et les femmes ont un anus. Une autre jeune femme qui ne pensait pas que son sexe était quelque chose d'ouvert. Des méconnaissances tout à fait extraordinaires. Alors, elles tiennent à quoi ? À plusieurs choses. D'abord, au fait que l'on a pensé, il y avait un livre assez ancien d'un chercheur qui s'appelait Jamie et qui avait écrit « L'ange ou la bête ». La sexualité des personnes handicapées, l'ange ou la bête. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un angélisme. Voilà, ce serait de grands enfants, n'est-ce pas, hein, qui resteraient comme ça, angéliques. Mais quand des manifestations de la sexualité arrivent, alors on a les représentations, nous, de quelque chose de monstrueux. Hein, et dans une sexualité normée, qui, pour être très très honnête, n'est pas la nôtre en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges là derrière, hein. Mais ces expressions-là, quel crédit apporte-t-on ? Quelque chose est tout à fait frappant, par exemple, mais le vecteur de connaissance le plus important, semble-t-il, pour ces jeunes hommes, c'est la pornographie. C'est à peu près tout ce qu'ils ont. Alors évidemment, l'image de la sexualité qu'ils peuvent se construire est une image construite à partir des films pornographiques. C'est bien quelque chose qui les met là, du côté de la bête, non ? Mais ça, c'est parce qu'on ne leur a pas ouvert les autres accès à la connaissance. Et donc, il faut commencer par ça. Mais pour ça, il y a un enjeu très très difficile, et Cécile le rappelait, c'est-à-dire que il faut que nous comprenions, nous, comment ils comprennent, eux. Et c'est l'intérêt, entre guillemets, scientifique, pour nous, hein, au-delà de la dimension humaine. C'est-à-dire trouver des outils, trouver des méthodes pour que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre et favoriser l'expression de ce qu'ils ressentent. C'est un énorme boulot.
Oui, j'allais dire.
C'est un énorme boulot, mais... Si on n'en passe pas par là, on va une fois de plus plaquer ce que nous pensons juste, ce que nous pensons bon, une image de la sexualité qui est, voilà, une espèce de chromo, hein, c'est quoi une famille, c'est papa, maman, c'est des enfants, c'est monogame, c'est toujours fidèle, enfin je ne sais, toutes les choses que l'on dit toujours et que l'on ne fait jamais. Hein. Sortir de ça, pour nous, et accepter que ce soit... pour elle, des choses inventées, des choses personnelles, que nous devrions pas nous donner le droit de juger. Hein? Et il y a une question derrière, d'ailleurs, qui est énorme, qui est gigantesque, qui est la question de la parentalité. Hein? Je ne sais pas si dans notre recherche, on aura la possibilité d'aller jusque-là, mais c'est vraiment un continent vierge, là. Hein? Jusqu'à présent, c'est le tabou absolu. Jusque dans les années 80, dans un pays comme la Suède, pourtant un pays très avancé d'un point de vue démocratique, on stérilisait systématiquement les femmes porteuses de déficience intellectuelle. J'ai le souvenir, moi, et j'en suis pas fier, il y a une trentaine d'années, j'étais éducateur, et je travaillais dans un établissement qui recevait des personnes adultes avec des déficiences, et avec les traitements des femmes, il y avait un contraceptif sans qu'elles ne le sachent. Je suis pas très fier de ça aujourd'hui, mais je dois dire que quand j'avais 20 berges, j'ai 25 ans, voilà, ça me paraissait évident. Vous voyez le chemin qu'on a à faire.
Est-ce que vous sentez, Cécile, parmi les parents, justement les proches que vous fréquentez au sein de Trisomie 21, que cette question leur fait finalement un petit peu peur, que le résultat de la recherche peut les inquiéter aussi, qu'on ne saura pas forcément complètement comment gérer, quand bien même on aura une meilleure connaissance de leurs besoins et de leurs problématiques, de ce qu'elles ont, elles, à exprimer?
Bien sûr qu'il y a une inquiétude. Parce que je crois très fort ce que dit Yves, c'est-à-dire que pour des parents, il est très difficile de se dire que son enfant avec un handicap intellectuel n'est pas un petit ange et a effectivement une sexualité qui peut être, j'en sais rien, on va dire entre guillemets normale, quelque entre guillemets déviante, je ne sais pas, peu importe. Et c'est très difficile. Et puis, ce qui est très difficile et qui fait peur aux familles aujourd'hui, aux parents, c'est la porte que ça risque d'ouvrir sur la parentalité, effectivement. Parce que ça, c'est encore quelque chose dont on a très très peur, on n'en parle pas, ou à mot couvert. Et la question de la contraception, elle est aujourd'hui, ce que raconte Yves à propos du contraceptif donné en même temps que les médicaments, dans beaucoup de familles encore aujourd'hui, je pense qu'une jeune femme, une jeune fille prend la pilule sans forcément savoir à quoi ça sert, sans qu'on lui ait vraiment expliqué les tenants et les aboutissants. Donc il y a un travail déjà à faire là-dessus. Alors il y a certains endroits quand même où les choses bougent beaucoup, il y a du travail qui est fait en lien avec le planning familial par exemple, mais c'est quand même quelque chose qui encore aujourd'hui est difficile.
Parce que finalement, est-ce qu'on ne sera pas un petit peu démuni, même si on a des résultats de cette recherche qui nous aident à mieux comprendre? Est-ce qu'on n'aura pas toujours derrière les problématiques, on va dire, d'organisation financière, la société même, qui, quand bien même on se dirait, ils peuvent vivre une sexualité, ils doivent vivre leur sexualité comme ils l'entendent, derrière, on ne sera pas préparé. Les proches et les parents vont être aussi un peu démunis pour mettre ça en place, on va dire.
Non, on sera peut-être pas préparé, mais je pense, enfin, Trisomie 21 a toujours fonctionné un petit peu comme ça, c'est-à-dire que les personnes sont motrices, finalement, on l'a vu sur les questions de l'hébergement, les questions d'expression de leur choix de vie, sont elles qui nous font avancer, sont elles qui nous tirent, et je pense que sur cette question-là, ça sera la même chose, et sont elles qui feront changer les représentations de l'entourage. Ce sera peut-être plus difficile avec, je sais pas, les gynécologues ou voilà cet entourage-là. Mais en tout cas, pour les familles, je pense que ça peut faire bouger les choses. Mais c'est pour ça que ça fait peur aussi.
Et en plus des familles, c'est-à-dire que les résultats de la recherche vont être, j'imagine, attendus et partagés pour tout le personnel, toutes les personnes qui vont avoir un moment à faire à des personnes porteuses de trisomie. Là, il y a aussi un chantier, on parlait de chantier tout à l'heure, énorme. Ça va mettre sûrement beaucoup de temps à faire changer le regard que peut avoir le médecin, la gynécologue, vous disiez, ou...
Vous savez, si, la situation des personnes qui sont porteuses de déficience, fondamentalement, depuis un siècle, quelles que soient les déficiences, c'est avec leurs efforts qu'elle a bougé. Ils ont été accompagnés par des gens et quelques-uns remarquables, mais c'est eux, toujours, qui ont porté les choses, en vérité. Les premières lois sur le travail sont nées de gens qui, détruits à la guerre de 1914-1918, n'ont pas voulu croire cette fois que ça tombait du ciel et que c'était le destin, mais que la société était responsable de l'état dans lequel on les avait mis, et donc qu'elle leur devait quelque chose. Et ça a été les premières luttes des personnes en situation de handicap. On le voit dans les pays anglo-saxons, par exemple, hein, des mouvements de revendication de parler par elles-mêmes, de ne pas avoir de traducteur, quelque bien intentionné qu'il soit. Et moi, je reprends à mon compte, et pour elle et avec elle, cette parole de Mandela, que vous connaissez probablement, dans lequel il disait « Ce que tu veux faire pour moi, si tu ne le fais pas avec moi, tu le fais contre moi. » Et je pense que en matière de sexualité, on est très exactement là. Et c'est elles qui feront ce chemin, et c'est elles qui pousseront les barrières. On peut les accompagner à pousser ces barrières, on les poussera pas à leur place, ce serait les mépriser. Et on ne saura pas les pousser là où ce sera efficient, parce que elles seules peuvent savoir là où il faudra que ça bouge. Nous, on les aide.
Et on va les aider dans un instant encore sur Vivre FM, ça continue, Recherche et Partage.
Recherche et Partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Yves-Jeanne et Cécile Dupas sont avec nous aujourd'hui pour nous parler du projet Mes Amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle. Yves nous le disait à l'instant, et c'est valable effectivement dans tous les domaines, on ne doit pas parler à la place des personnes, les personnes se prennent en main, elles en sont plus que capables, et c'est absolument essentiel, c'est au cœur de la recherche que vous menez en ce moment, et c'est même la deuxième partie, vous nous disiez tout à l'heure, il y avait des brainstorming au début, on va parler avec les gens, essayer de voir ce qu'elles veulent, et la deuxième partie de la recherche, on va carrément peut-être les mettre plus en avant, c'est ça?
Alors, à partir de nos résultats, on va travailler avec elles à construire un programme de formation. Et on va travailler avec elles non seulement à partir des points de connaissance, à partir des aspirations, mais aussi tout ce qui est nécessaire pédagogiquement de construire. Avec quels outils se faire comprendre, avec quels outils transmettre les informations, avec quels outils poser les bonnes questions. Et donc il y a la construction d'un manuel, qui sera d'ailleurs en accès libre, hein, bien évidemment, qui va être, au fond, un travail de formalisation d'une formation à la vie affective, amoureuse et sexuelle, qui est à construire. Et une fois que ce sera construit, troisième étape de la recherche, au boulot, il va falloir la faire, cette formation. Et donc là, ce qu'on a imaginé, c'est à chaque fois un binôme, une personne porteuse de trisomie, avec un accompagnant, et encore une fois, un accompagnant. Vous savez, un accompagnant, c'est un mec, il est toujours un petit peu derrière. Hein? C'est pas lui qui prend le devant, c'est pas un guide, c'est pas un comte de 14, c'est un accompagnant. C'est quelqu'un qui est, voilà, à côté, mais un petit peu en retrait, comme ça. Hein? Mais qui aide, qui facilite, etc., etc. Et ils vont donner la formation à leur père. Et à l'issue de la recherche, un an après, on a prévu un travail qui va être un travail d'aller revoir les personnes qui ont bénéficié de cette recherche, et on aura fait un autre groupe, ce qu'on appelle dans notre jargon un groupe test, de personnes qui n'auront pas bénéficié de cette recherche. Et on va regarder, un an après, quelle différence entre ces deux groupes. Parce que, pour l'instant, on a une idée de ça, on a la conviction de ça, on a aussi quelques expériences de ça, et l'expérience de trisomie 21 depuis des années a montré que beaucoup de choses étaient possibles. Dans cette association, les gens parlent pour eux-mêmes, et on va pas leur prendre la parole et on va pas la leur couper. Qui aurait pensé ça il y a encore 20 ans, hein? Impossible. Et donc du coup, il faut aller jusque-là. Il faut aller jusque-là.
Cécile Dupas, un mot là-dessus, sur l'engagement des personnes de trisomie 21 ?
Oui, moi, je voulais rebondir sur la question de la forme, donc de la formation par les pairs. Ça correspond tout à fait à ce qu'on cherche à faire depuis 2-3 ans maintenant. On a mis des choses en place pour que les personnes parviennent non seulement à porter leur propre parole, mais aussi à porter la parole des autres, c'est ce qu'on appelle la paire représentation. On a mis aussi les personnes en position d'être facilitateurs, ce dont parlait Yves tout à l'heure en parlant d'accompagnants, donc d'être facilitateurs de leur propre pair. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec des facilitateurs non porteurs de handicap, et on s'est dit à un moment, mais pourquoi pas, finalement, ce sont bien eux qui sont peut-être les mieux placés, et c'est un travail qui commence aujourd'hui à porter ses fruits et à prendre une vitesse de croisière dans nos associations. Et ça fonctionne bien, donc ça aussi, ça nous, dans cette recherche, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, particulièrement.
Vous avez senti un changement chez les personnes avec trisomie 21 quand vous leur donniez les clés de ces destins-là, quand vous leur disiez, bah maintenant c'est toi qui va décider, c'est toi qui va prendre
tout à
le
fait,
vide.
Tout à fait. On organise depuis janvier 2014, donc bientôt 2 ans, des séminaires où on travaille, sont les personnes qui travaillent hein, autour de ces idées, de ces techniques, surtout de pair facilitation et de pair représentation. Et on voit les personnes changer radicalement. Enfin, ils prennent conscience de ce qu'on appelle, alors, dans notre jargon, leur pouvoir d'agir, hein, c'est-à-dire la possibilité qu'ils ont de peser sur les choses. Et ça transforme les gens, c'est évident.
C'est vrai qu'on se dit toujours, mais pourquoi est-ce qu'on a attendu autant pour leur redonner effectivement.
Et je voudrais rajouter quelque chose, indépendamment de la gravité, on va dire, ou indépendamment du degré de handicap. Hein. On se dit bien les choses comme ça, il n'y a pas question d'avoir des personnes de haut niveau et d'autres pas. Donc indépendamment, avec des moyens mis en place autour d'étayage, etc., on arrive avec toutes les personnes à cet épanouissement-là et à ce sentiment de maîtrise de sa vie.
C'est vrai qu'on parle beaucoup, évidemment, des personnes avec trisomie 21. Mais c'est de la déficience intellectuelle. Vous disiez tout à l'heure, il y a un panel un peu plus large de personnes concernées par cette recherche.
Oui, tout à fait, mais qui pourrait d'ailleurs aller largement au-delà des personnes intellectuellement déficientes. Hein. Je crois qu'il faut, on peut pas oublier que nos sociétés ont fabriqué des handicapés à partir de personnes déficientes en ne les regardant qu'au regard de ce prisme. Hein. Et donc on a parlé à leur place, donc on a pensé à leur place, donc on a agi à leur place. En réalité, on ne s'est jamais posé la question de ce qu'Amartya Sen appelle la capacité. Mais c'est exactement le même phénomène que pour ce qui concerne les minorités, c'est exactement le même phénomène que pour ce qui concerne les marginaux et les exclus. Hein. Mis sous notre stigmate à nous, handicapés, marginal, exclus, tout ce que tu veux, on ne regarde ce qu'ils font, ce qu'ils disent, qu'au travers de ce prisme. Et vous savez, il y a une formule assez rigolote qui dit si tu as la tête faite comme un marteau, tu as tendance à regarder celle de ton voisin sous la forme d'un clou. C'est exactement ce que nous faisons. Regardons autrement. Et dire aussi qu'il n'y a pas de sexualité handicapée, ce que nous faisons là, ce que nous apprenons là, ce que nous allons comprendre là, est quelque chose qui déborde et de très loin, qui nous concerne tous, parce que ça saurait quand même si la vie sexuelle et si la vie amoureuse étaient toujours un jardin de roses et qu'il soit jamais plein d'épines. Simplement, on leur a mis un peu plus que nous en avons nous, et il faut les aider à balayer les épines supplémentaires. Ce qui veut dire aussi que c'est pas un programme pour les rendre heureux. Hein. C'est aussi un programme de difficulté, parce que l'amour, c'est un truc qui marche pas à tous les coups, parce qu'on se fait tous larguer une fois ou deux dans la vie, non. Parce que il s'agit pas de promouvoir un paradis artificiel, simplement de les aider à affronter des réalités qui sont des réalités complexes et qui sont ceux de notre sexualité et de notre vie amoureuse.
Et j'imagine d'ailleurs, Cécile vous contredira pas, j'imagine qu'en tant que proche, parent, vous avez déjà appris aussi et de leur sexualité et de leur façon de se questionner et de regarder ces choses-là.
Oui, tout à fait, mais avant je voudrais rajouter quelque chose à ce qui a été dit. Je crois qu'il faut aussi se placer sur sur le côté des droits. Et la sexualité, comme le reste, est un droit. Et que ces personnes n'ont pas à être privées du choix de leur sexualité. Mais pour choisir, il faut comprendre, il faut être informé, il faut... Voilà, donc non. Tout ça nécessite d'être travaillé.
Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il y a un autre projet de recherche soutenu par la FIRA, qui a été lauréat du projet en 2013, qui s'appelle « C'est ma vie, je la choisis ».
Tout à fait.
Qui concerne justement l'autodétermination des personnes porteuses de trisomie 21 et déficientes intellectuelles. Donc ça rejoint, effectivement, là on est sur la sexualité, mais plus largement, effectivement, de pouvoir laisser les personnes décider pour elles-mêmes et vivre leur vie comme elles l'entendent. C'est essentiel. Vous me disiez tout à l'heure en micro, il y a un petit web documentaire d'ailleurs pour les personnes qui voudraient aussi découvrir, effleurer un peu ce sujet. C'est sur le site de Trisomie 21.
Voilà, c'est. Je parlais tout à l'heure des séminaires où les personnes ont travaillé sur la paire facilitation et la paire représentation. Donc il y a un web documentaire effectivement qui est sur le site de Trisomie 21 France. Voilà. Donc j'invite tout le monde à aller regarder ce qui est possible de faire.
Voilà, de ne pas hésiter à se renseigner, parce que la recherche, on est au début de la recherche, donc on va falloir attendre un an ou deux, enfin on aura peut-être, est-ce qu'on aura des résultats à mi-parcours, il va falloir vraiment attendre le manuel, le guide qui va sortir pour les parents, les auditeurs qui nous écouteraient, qui seraient intéressés.
Alors, je ne sais pas encore l'ordre de la publication, mais en tout cas, dans l'année qui vient, ce qui sera fait, c'est l'état des lieux. Mais voilà, et ce sera déjà un premier pas important. Et on a peu d'éléments là-dessus. On en a beaucoup moins que ce qu'on croit qu'on a. Donc c'est un premier élément. Et puis voilà, progressivement, quand les outils seront mis au point et validés, hein, parce qu'il va falloir les essayer. Hein, c'est la recherche, c'est du bricolage. Hein, on essaye des trucs qui marchent pas du premier coup, on corrige. Mais justement, notre métier, c'est de pouvoir détecter ce qui fonctionne pas et de pouvoir le corriger. Et au fur et à mesure, on mettra à disposition des gens les éléments. Ce qui est clair, c'est que l'ambition, c'est que ce qui sera fabriqué et ce qui sera validé sera gratuitement à la disposition de tous, hein, sur le site de la FIRA bien sûr, mais sur celui de Trisomie 21 et puis partout sur la toile là où ça peut se diffuser. Voilà, c'est pas du tout une recherche en milieu fermé.
Oui, alors ça, comme tous les projets de la FIRA, on retrouvera tous les résultats de la recherche et les outils disponibles, notamment sur le centre ressources. Et puis, ben, ça donnera, je l'espère, des clés, hein, vous disiez, pour pouvoir accéder à une vie amoureuse et sexuelle de meilleure qualité pour ces personnes-là, plus d'épanouissement. Puis nous, ça nous apprendra aussi sûrement énormément de choses. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère vous retrouver très prochainement pour continuer à suivre l'aventure de cette recherche. Merci d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Vivre FM, podcast.